Radio Okapi. La synergie des enseignants de la province de la Tchopo radicalise son mouvement de grève. Décision prise à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Les enseignants attendent tenir ainsi jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit trouvée par le gouvernement. Baisse progressive de la courbe de contamination choléra qui tout dans les territoires de Mwenga au sud Kivu. D'après le médecin-chef de cette zone de santé, aucun décès n'a été signalé et seuls 4 nouveaux cas ont été enregistrés en l'espace de 3 semaines. Amadou Ba, chef de l'information publique à la MONUSCO Goma, est notre invité dans cette édition du journal. Il revient sur les moments forts de la célébration de la journée des Nations Unies le 25 octobre dernier à Goma. Au Nord Kivu, voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la province de la Tchopo, l'intersyndicale des établissements d'enseignement primaire et secondaire public décide de poursuivre le mouvement de grève entamé depuis le début de la rentrée scolaire en cours. En effet, selon l'un des porte-parole de cette structure syndicale, Joseph Litete Bobina, le CIECO, le CINECAT et la CINEP se sont réunis pour une évaluation de 3 semaines de grève. Au terme de cette assemblée générale extraordinaire, ils ont décidé de poursuivre ce mouvement jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit trouvée par le gouvernement pendant les pourparlers en cours avec les délégués. Joseph Litete a été joint au téléphone par Jacques Moukonkolé.
Les enseignants ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève jusqu'à ce que la commission paritaire qui se réunit à Kinshasa puisse donner des résultats favorables.
Vous n'avez pas confiance à vos délégués et même au gouvernement qui sont déjà en pourparlers pour essayer de décanter la situation?
Nous avons un protocole d'accord de 2019 qui n'a jamais connu un début d'application. C'est pourquoi les enseignants ont perdu toute confiance aux autorités. Ils veulent bien de résultats palpables avant de commencer avec les enseignements.
Entre-temps, les jours s'égrènent.
Oui, nous pensons bien que cela est de la responsabilité du gouvernement qui devrait aussitôt prendre des dispositions nécessaires pour éviter que la chose n'arrive jusqu'à ce niveau.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, la radicalisation de la grève des enseignants depuis la rentrée scolaire inquiète de plus en plus les acteurs de la société civile. Ces derniers craignent l'instrumentalisation des jeunes par quelques acteurs sociopolitiques mal en point en leur incitant à commettre des actes barbares, surtout en cette période où le contexte sécuritaire reste encore fragile dans la province. Ces acteurs sociaux redoutent surtout l'adhésion de plusieurs jeunes désœuvreux dans les différents groupes armés encore actifs dans la province, une fois que la grève perdure. Edgar Matesso en appelle à la responsabilité régalienne du président de la République de faire de l'éducation sa priorité. Il a été joint par Gabriel Ouamenia.
La question de la grève des enseignants devrait être prise de manière particulière pour la province du Nord Kivu, parce que au-delà de la baisse du niveau de l'enseignement de l'éducation au sein de notre province, il faut aussi considérer que dans notre province, il y a plusieurs autres réalités qui risquent d'embraser les secteurs éducatifs. C'est notamment la situation sécuritaire où les enfants découragés, désespérés de leur éducation courent le risque d'intégrer les groupes armés et participent à la déstabilisation de la région s'ils sont récupérés par des mauvaises politiques qui essayent de leur montrer que les cours n'auront plus lieu, il n'y a plus rien à espérer dans l'éducation et que dans les groupes armés, ils peuvent trouver leur mieux-être et ça, c'est dangereux. Nous demandons au président de la République de prendre à priorité la question de l'éducation des enfants du Nord Kivu qui risquent d'adhérer à des mouvements insurrectionnels de groupes armés s'ils ne sont pas encadrés.
En province du Tanganyika, de la proclamation des résultats d'examen d'État, on en parle encore. À Mbululu, par exemple, dans le territoire de Kongolo, l'inspecteur principal de l'EPST a échappé au lynchage monté contre lui par des finalistes malheureux aux épreuves. Les finalistes lui reprochent de n'avoir pas joué son rôle pour faciliter leur réussite à l'examen. Plusieurs localités rapportent d'autres actes de vandalisme liés à la publication des résultats. François Avemibi.
Le premier cas déploré dans la région, c'est la menace proférée contre les autorités scolaires de l'EPST Mbulula. Le plus visé dans cette menace, c'est l'inspecteur de l'EPST Mbulula qui a réussi à s'échapper au lynchage. Le chef de sous-division de l'EPST Kongolo 2 en Mbulula confirme le fait. David Assani Tambwe.
D'abord, nous demandons à l'autorité politico-administrative de la place de nous protéger. Il n'y a pas eu de néant, mais il y a eu des échecs. De les sites, il y en a eu. Je leur demande d'être posés, de se retirer, que chacun reprenne conscience et pour se préparer pour l'année. Quand ils ont ouvert les portes, bon, c'est mieux qu'ils viennent étudier au lieu de faire ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Cela ne leur servira à rien.
Des cas semblables sont rapportés dans les autres localités de la province du Tanganyika. C'est le cas des Manono. Les témoins font état d'une situation telle qu'après la proclamation des résultats de l'examen d'État, les finalistes malheureux ont procédé au saccage systématique des bureaux de l'Institut des techniques agricoles, tandis qu'à 113 km, à l'ouest du centre des Manono, Ankoro a assisté impuissant au saccage et du bureau et de la résidence privée de l'inspecteur de l'EPST. Le chef de secteur d'Ankoro, John Umba.
Il fallait attaquer la résidence de la groupe secondaire pour qu'on s'apporter le passager des biens de la maison.
Kalemi, François Djabemi, Radio Kapi.
Au sud Kivu, à Kitutu, dans le territoire de Mwenga, la courbe de contamination au choléra connaît une baisse progressive. C'est ce qui fait dire aux autorités sanitaires que l'épidémie régresse. Aucun décès n'a été signalé et seuls 4 nouveaux cas ont été enregistrés en l'espace de 3 semaines. Au total, 213 cas et 13 décès ont été rapportés depuis le début de l'épidémie en septembre dernier. Le médecin chef de la zone de santé de Kitutu plaide aujourd'hui pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable à Kitutu, ce qui permettra d'endiguer le choléra dans la région. Docteur David Kitoka dans ses propos recueillis par Cynthia Bachizi.
Aujourd'hui, dans la zone de santé de Kitutu, il y a quand même une bonne évolution parce que la régression est nette des nouveaux cas. La semaine que nous venons de terminer, nous avions enregistré 3 cas et cette semaine, nous avions déjà reçu depuis hier un nouveau cas. Pour dire que comparativement aux semaines antérieures, il y a déjà une accalmie et le partenaire en place continue toujours à aller désinfecter le ménage où provient les cas et tout autour, soit TV ménage et je pense les systèmes de chloration de l'eau au niveau des sources continuent aussi à se faire. Et nous autres, nous continuons à sensibiliser toujours la communauté pour le respect des règles d'hygiène. Sauf que ces actions sont juste temporaires, mais d'une manière durable, il fallait penser à comment résoudre les problèmes de l'eau à Kitutu. C'est ça le grand problème qui réside.
En santé toujours, comme vous le savez, c'est depuis le mois d'août que les personnels non médecins sont en grève. La province du Maniema n'a pas été épargnée par ces mouvements. Depuis lors, à l'hôpital général, tout comme dans les structures sanitaires publiques de la place, les services ne sont plus organisés convenablement. Pas de consultations prénatales ou préscolaires. De toutes les structures sanitaires qui existent à Kindu, seul le centre hospitalier Lumbu Lumbu Clinique Mapon organise comme d'habitude ses consultations. Florence Kizalunga a visité ces centres, voici son reportage.
À notre arrivée aux environs de 10 heures, nous avons trouvé plusieurs femmes assises avec leurs bébés en attendant les vaccins. Plus tard, l'opération de vaccination a commencé. Certaines femmes dont les enfants avaient déjà réalisé 4 mois sans être vaccinées ont exprimé leur joie en ces termes.
Oui, nous sommes très contentes. Aujourd'hui, mon enfant vient de recevoir les vaccins. C'est depuis 5 mois qu'il est né. Normalement, on devrait recevoir les vaccins au centre de santé. Malheureusement, le centre est en grève. Mais aujourd'hui, au centre hospitalier Lumbu Lumbu, là, nous recevons nous tous des vaccins.
Ici à Kindu, parmi tous les centres, il n'y a pas de vaccins. Mais ici au Mapon, nous venons de recevoir les vaccins pour nos bébés. Merci beaucoup.
Pour la chef d'unité fonctionnelle de la maternité, cette particularité est justifiée par son caractère privé. Madame Annie Kamwanya.
Nous sommes d'abord un hôpital privé, encore de niveau tertiaire au niveau de Kindu. Là où nous nous approvisionnons, c'est au niveau du bureau central. Non, non, chez nous, il n'y a pas de conditions. Les enfants sont vaccinés gratuitement. En tout cas, on ne demande rien. Je peux leur dire que venez-y nombreuses car chez la clinique Mapon on ne demande rien pour la prévention des enfants.
Les centres hospitaliers Lumbu Lumbu Clinique Mapon organisent cette activité chaque dernier mardi du mois. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Parlons sécurité maintenant, direction Ituri. L'armée affirme avoir récupéré au moins 5 villages qui étaient occupés par la coalition des miliciens de la CODECO et de la FPIC en territoire de Djougou. C'est lors des opérations depuis environ une semaine contre ces rebelles dans cette entité territoriale. Le porte-parole des FARDC en Ituri avance un bilan des 11 morts du côté de l'ennemi et des armes récupérées. Cependant, la société civile locale indique que ces miliciens qui fuient les combats se regroupent dans d'autres localités pour planifier des attaques contre la population. Isaac Rimoyopi.
Parmi les villages qui sont passés sous le contrôle de l'armée, il y a Nyangaraï, Buhendwa, Matete, Ngoto et Kabakaba. Depuis le week-end dernier, les combats se déroulent entre les FARDC et la coalition des milices de la CODECO et de la FPIC vers l'OPA et le groupement Malabo. L'armée indique que les forces loyalistes ont infligé une lourde défaite à l'ennemi avec 11 miliciens tués et 4 armes récupérées. Ces hommes armés se sont retranchés au village de Licei, Mahoko et Bunzenzele, affirment des sources locales. D'autres se regroupent dans les localités des Bekba, Drikba, Dada et Tchalaka. Leur présence inquiète la population locale qui demande à l'armée de les traquer dans leurs lieux de retranchement. Le porte-parole de l'armée en Ituri appelle la population au calme en la rassurant que les opérations militaires se poursuivent dans la zone. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Pour le moment, dans cette zone, le calme est revenu et le bilan fait état de 11 éléments de groupes armés neutralisés. Nous continuons encore à fouiller parce que nous savons là où ils sont en train d'être traités. Nous allons arriver là-bas. Nous disons encore à ces groupes armés qui s'entêtent, le pire arrive.
Des sources concordantes rapportent que certains militaires ont également péri lors de ces affrontements qui ont entraîné le déplacement des centaines de civils. Bounia Isakare Moyope, Radio Okapi.
Entre-temps, à Kananga, Interpeace, à travers sa structure de mise en œuvre au Kasaï dénommée Travail et droits de l'homme, lance le projet Gouvernance inclusive de la paix. Un atelier a été organisé ce mardi par cette ONG autour de la mise en place des groupes de travail des acteurs qui seront appelés à organiser les dialogues dans les communautés. À en croire le chargé de programme à Interpeace, après les événements de Kamuina Sapu, le temps est venu pour consolider la paix dans la région avec la participation de tous. Bienfait Mouyigi Roua est au micro de François Kadima.
Le projet, d'abord, pour commencer, est financé par l'ambassade suédoise en République démocratique du Congo, donc l'ambassade de la Suède, évidemment à travers SIDA, pour une période de 4 ans. Et le projet s'étend dans 3 zones, donc 3 provinces. Il y a la province du Kasaï, Kasaï central et Maïndombé. C'est des zones qui ont connu, en tout cas, des crises du point de vue conflictuel, où les communautés étaient déchirées et où il y a encore quelques traces, en fait, des conflits. Donc maintenant, nous sommes dans une phase vraiment de la participation, de la gestion participative et des conflits dans ces zones. Ce qu'on attend d'abord des acteurs, c'est d'abord l'engagement. Donc, comme vous le constatez, pour les lancements, donc il y a les différents groupes, les différentes composantes qui vont devoir signer leur engagement pour accompagner le processus de consolidation de la paix dans la zone. Et nous, de notre côté, en fait, nous sommes là, comme d'habitude, pour les accompagner, pour les appuyer aussi du point de vue technique.
On revient ici à Kinshasa. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire. Il a ensuite envoyé à la commission aménagement du territoire et infrastructure pour un examen approfondi en déant 15 jours. Au cours de la plénière d'hier mardi consacrée au débat général de ce projet de loi, le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, a fait savoir que, depuis l'indépendance, la République démocratique du Congo n'a pas la maîtrise de la gestion de son territoire, et ce avec, pour conséquence, la dégradation continue des ressources naturelles. Pour le député national et ancien ministre de l'aménagement du territoire, Agier Matembo, cette loi offre les conditions nécessaires à l'épanouissement de la population, la valorisation sur place des ressources naturelles et la sauvegarde de l'environnement. Agier Matembo est au micro de Michel Kifindangoy.
Ce que l'Assemblée vient de faire, c'est historique. Il y a de cela 60 ans que ce pays était en train de naviguer à vue. La gestion spatiale était méconnue des autorités congolaises. Aujourd'hui, avec l'acceptation, la recevabilité de cette loi, les problèmes que nous connaissons dans les domaines fonciers, en ce qui concerne les superpositions multiples des titres, doivent trouver solution. Le problème que nous avons des constructions anarchiques non conformes à la planification spatiale doit trouver solution. Donc cette loi, elle apparaît petite, mais elle est une loi fondamentale qui doit co-gérer avec d'autres sectoriels, notamment le minier, les affaires foncières, l'urbanisme, hydrocarbures, environnement. C'est la loi qui va constituer un tribunal d'arbitrage en cas de conflit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous ces conflits n'ont pas de réponse parce qu'il n'y a pas un secteur qui réglemente, il n'y a pas une loi qui met de l'ordre dans ce secteur.
Actualité internationale.
Au Soudan, l'appel à la grève générale lancé par les syndicats et les comités de résistance populaire après le coup d'État de lundi dernier semble largement suivi. La capitale Khartoum était totalement à l'arrêt hier mardi et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de province. Malgré les restrictions du réseau téléphonique, les partisans de la résistance passive commencent à s'organiser. Du côté des alliés, des militaires, c'est le silence. Entre-temps, le premier ministre Abdallah Hamdok a été ramené chez lui.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal Amadou Ba, chef de l'information publique à la MONUSCO Goma. Il revient sur le moment fort de la célébration de la journée des Nations Unies le 25 octobre dernier à Goma, au Nord Kivu. Il s'entretient ici avec Mathieu Ilunga Chamboui. Suivez.
Monsieur Amadou Ba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable de l'information publique dans le Nord Kivu. Les Nations Unies, avec les agences, ils ont célébré la journée internationale des Nations Unies. Est-ce que nous pouvons avoir un peu une idée sur le thème qui a été choisi et pourquoi ce thème?
Effectivement, nous avons célébré la journée internationale des Nations Unies. Le temps fort de la commémoration de cette journée soit consacré à une table ronde. Puisque, comme vous le savez, c'est une journée des Nations Unies. Il y a évidemment la MONUSCO en tant que mission de maintien de la paix. Il y a les agences spécialisées, à savoir l'UNICEF, HCR, le Fonds des Nations Unies pour la population et ONUFAM, donc avec qui il fallait commémorer cette journée.
Mais pourquoi vous avez accentué sur femmes, paix et sécurité?
Pour la bonne et simple raison que, comme vous le savez, les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Et dans une région particulièrement meurtrie par des affrontements, en général, ce sont les femmes, les enfants, les filles qui subissent les affres de la guerre. Les Nations Unies font beaucoup de choses. Les femmes aussi font beaucoup de choses. Donc, elles sont victimes de la guerre. En même temps, elles peuvent être justement l'occasion idéale de montrer qu'elles peuvent contribuer à la paix et elles ont un rôle de premier plan à jouer pour le retour de la paix, pour la consolidation de la paix, parce qu'elles se mettent toujours en première ligne.
Il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent parfois la promotion ou bien le relèvement de la femme. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là?
La résolution 1325 a été adoptée il y a 21 ans. Pour autant, les femmes continuent d'être victimes de l'injustice. On sait très bien que dans la tradition africaine, hein, ça c'est pas la RDC seulement, donc la femme doit se consacrer au foyer, doit se consacrer à l'éducation des enfants. Il y a une division sociale du travail qui est réservée et généralement la corvée aux femmes. Et dans notre culture, de manière générale chez les Africains, on considère que la femme est inférieure à l'homme. Tout ça, c'est des pesanteurs sociales qui pèsent lourdement pour permettre les femmes de sortir de cette différence. Et du point de vue même salarial, même les femmes intellectuelles n'ont pas souvent le même salaire que les hommes et n'occupent pas le même statut. Tout ça font des obstacles majeurs pour une véritable promotion des femmes et pour que la femme se libère du joug du mari. Donc ça, c'est autant d'exemples qu'on peut donner. C'est des injustices aussi qu'elles subissent de manière générale. Hein. Et toute forme de discrimination, y compris la discrimination salariale, sans compter leur exploitation sur les travaux, la corvée, et aussi les violences qu'elles subissent.
En conclusion, quelles sont les recommandations qui ont été prises à l'issue de cette table ronde?
Il y a d'abord cette prise de conscience que les Nations Unies ont fait beaucoup de choses, commencé par la résolution 1325. Ensuite, il y a eu une dizaine d'autres résolutions tendant toutes à la promotion de la femme. Pour autant, on sent qu'il y a encore du retard par rapport à cette progression, cette autonomisation des femmes. Beaucoup d'agences travaillent de concert avec la société civile ici en RDC, de manière générale, pour encore davantage plaider pour cette égalité des sexes et pour que toutes ces formes de discrimination disparaissent, quoi, à travers l'implication des gens et des autres, aussi bien des femmes que des hommes. Et ensemble, donc, il y a une possibilité de conjuguer les efforts dans la consolidation de la paix, dans la prévention et le règlement des conflits et dans la participation de la femme à toutes les autres activités.
Agenda femme, paix et sécurité. Alors, le message?
Le message, c'est que les femmes constituent la moitié de l'humanité. Ici, les femmes en RDC, elles représentent plus de 51% de l'électorat. Donc tout ça amène à dire, il faut que les lignes bougent. Il faut que les femmes soient plus représentés au niveau du gouvernement, le Parlement et toutes les instances judiciaires et pour sa pleine participation à l'œuvre de la construction du pays. Et donc, elles peuvent aussi jouer un rôle de premier plan dans les assises qui sont consacrées au retour de la paix et tous les mécanismes et tous les dispositifs qui peuvent ramener la paix. La femme doit être au centre.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Fin de cette édition coordonnée par Noëlla Luzitu sous la supervision de Alain Irung. Était à la présentation Jacques-Yves Moulima. Merci de nous avoir suivis.